Nous vous invitons sur Radio Ndekiluka à suivre maintenant la grande édition de la mi-journée. Une présentation de Inès Langopo. Inès Laure, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane et bienvenue à tous dans cette édition à la une. Mécontentement ce matin à Boire des agents électoraux affectés dans l'Ouampende, bloqués pour des raisons sécuritaires dans la Nanamambéré. Ils demandent à l'ANE de leur trouver une solution. Autre mécontentement, celui des candidats retardataires au recrutement dans la police et la gendarmerie. Leurs dossiers de candidature sont rejetés après la clôture hier 29 juillet. Ils demandent une indulgence exceptionnelle. Et puis, les communautés Goula et Runga se réconcilient en délai. Hier, les deux ethnies se sont serré les mains et enterré la hache de guerre. En sport, créé de cœur des entraîneurs nationaux de tennis, il déplore la situation du tennis actuellement à Bangui et sur toute l'étendue du territoire.
Inès, ouvrons ce journal avec ce mécontentement des 175 agents électoraux affectés dans l'Ouampende, mais bloqués à Boire pour des raisons de sécurité.
Ils reviennent à la charge ce matin après leur mouvement de mécontentement samedi dernier. Ces agents électoraux qui sont hébergés depuis leur arrivée le 20 juillet à la résidence du préfet de la Nanamambéré se disent dépassés. Ils demandent à l'ANE de leur trouver une solution puisque les véhicules qui les ont déposés à Boire sont retournés à Bangui. Un des manifestants au micro de notre correspondant à Boire, Prévar Otreglikbanga.
Depuis l'appel qu'on a lancé sur les ondes de Ndekuluka, jusqu'alors l'ANE n'a pas réagi à notre appel. Et nous avons souligné trois aspects. Donc l'aspect logistique, nous demandons à l'ANE de nous envoyer des véhicules afin de nous déployer au niveau du terrain pour qu'on puisse démarrer le travail. Puis le deuxième aspect, on désire l'aspect sécuritaire. Il faut que notre sécurité soit assurée. Et le troisième aspect, c'est le peu de l'argent qu'on nous a donné est déjà terminé. Donc nous demandons aussi à l'ANE d'accompagner ce troisième aspect, de nous envoyer de l'argent afin qu'on puisse bien travailler sur le terrain, car un sac vide ne peut pas se tenir debout.
Les responsables de l'ANE n'ont pas encore réagi à cette plainte.
Autre mécontentement, Inès, celui des candidats retardataires au recrutement dans la police et la gendarmerie.
Ils ont vu leur dossier de candidature rejeté après la date de clôture hier 29 juillet. Ils ont pris d'assaut tôt ce matin la mairie du 5e arrondissement et accusent l'unité mixte de gestion de candidature de corruption et de traitement à la tête de Clignon. Ils demandent au gouvernement une indulgence exceptionnelle en des candidats au micro de Jean-Fernand Queen.
Nous sommes nombreux. Nous avons appris l'ouverture de candidatures au sein de la police et de la gendarmerie. C'est ce que nous avons fait. Certains parmi nous sont venus depuis samedi. En déposant le dossier, nous avons dû payer la fiche de candidature alors que c'est gratuit. Nous avons donné 1000 francs aux forces de l'ordre ici. C'est mon cas et celui de ma sœur, tellement que nous avons patienté. Nous avons donné 2000 francs pour deux fiches. Malheureusement, on ne nous a pas donné de reçu. Hier soir, certains parmi nous sont venus, on leur a donné de reçu et nous, on nous a fait savoir que les autorités ont décidé de la prolongation de la date de candidature. Donc, il nous faut rentrer et revenir ce matin. En revenant, nous avons trouvé nos dossiers par terre et on nous dit que le dépôt du dossier est clos. C'est pourquoi nous sommes en colère et nous dénonçons cela. Autant retenir nos dossiers et au concours un échoue, c'est encore mieux. Nous avons abandonné nos activités à cause de ça et nous voulons qu'on nous trouve une solution.
En juin par Radio Ndekiluka, le commissaire de police du 5e arrondissement rejette ces accusations et dit respecter la date légale de clôture de candidature prescrite par les autorités.
Un temps pour la guerre et un temps pour la paix, dit un adage, les communautés Goula et Runga se réconcilient en délai.
Des conflits intercommunautaires ont fort longtemps détérioré les relations entre ces deux ethnies. La situation est devenue pire avec l'implication des groupes armés et les récentes violences. Mais pour la première depuis les dernières hostilités de février, Goula et Runga se sont serrés hier les mains et ont tiré la hache de guerre. Un papier de Claire Ndombia Samba rendu par Eda Lotindiko.
C'est la première fois que ces deux communautés se mettent ensemble. La réconciliation s'est déroulée à la mairie de Ndélé. C'est grâce au travail abattu par les leaders communautaires. Ousmane Amine, chef du quartier Aliou, représentant de la communauté Goula, se dit satisfait de cette initiative.
Vraiment, je suis fier de ça. Les semaines passées, on était séparés pendant 5 mois. Mais aujourd'hui, on a la chance de nous retrouver ici à la mairie de Ndélé. Donc, je suis vraiment fier de ça. Je remercie d'abord le gouvernement pour doubler son effort de ce processus de réconciliation.
Même impression du côté des Runga qui apprécient également cette médiation. Adam Youssouf, chef du quartier Aoussa, représentant de la communauté Runga.
Je remercie les autorités locales de Ndélé. Ça par leur effort qu'ils ont fait pour nous réunir ici, les Goula avec les Rouma ici en général, vraiment je remercie beaucoup. On ne peut pas encore se battre.
Pour François Dieudonné Batawapi, préfet de Bamingui Bangoran, ce qui était impossible est devenu possible.
La mission première était de réconcilier les deux frères devenus ennemis. Quand nous sommes arrivés, on a d'abord commencé par demander le cessez-le-feu, ce qui nous a permis maintenant d'aller du côté de Runga comme du côté de Goula pour essayer de les réconcilier. Ce n'est pas une tâche facile, c'était difficile, mais nous avons surmonté toutes ces difficultés, une ambiance de paix, parce que ce qui était impossible hier est devenu possible grâce à cette médiation.
Cette réconciliation a favorisé la libre circulation des personnes et des biens. Depuis deux semaines, le crépitement d'armes a cessé dans la ville de Ndélé, capitale du Bamingui, Bangoran.
Merci à vous, Eda Lotintiko.
Le monde célèbre ce 30 juillet la journée internationale de lutte contre la traite des êtres humains.
Une journée pour dénoncer et lutter contre toutes les formes d'esclavage. Ici, en Centrafrique, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique rassure de la volonté de son pays à soutenir la République centrafricaine, à traquer les auteurs de cette pratique et à assister les victimes. Lucie Tamline est au micro de Rodrigo Leroy-Benga.
Aujourd'hui, les gens de toutes les races s'unissent pour dire non au racisme et non à l'esclavage des autres. En Centrafrique, qui sont les victimes de la traite? Les milliers d'enfants soldats sont les victimes principales en Centrafrique, mais aussi les enfants qui travaillent dans les mines, les enfants qui sont envoyés ailleurs pour travailler en tant que domestiques. Les adultes, les femmes qui sont obligées de se prostituer, sont les victimes de la traite. Alors, il faut d'abord sensibiliser les gens par rapport à cet esclavage moderne. Il faut identifier les victimes et les donner les soins nécessaires pour qu'ils puissent regagner leur liberté et leur dignité. Il faut entamer les poursuites judiciaires contre les malfaiteurs qui gèrent les réseaux criminels. Il faut que les leaders des groupes armés soient tenus responsables pour leurs crimes contre l'humanité. C'est une lutte qu'on mène ensemble et je vous assure de l'engagement américain de soutenir ces efforts.
À Bouya, dans la Haute-Côte, le réseau des producteurs et multiplicateurs de semences Weprozem procède au nettoyage des salles de classe.
Ses membres ont lancé depuis le 25 juillet une vaste opération d'assainissement des établissements publics, ceci pour permettre aux enfants de reprendre les cours dans un environnement sain. Le point avec Gasmala Mustapha.
Plusieurs femmes et hommes munis de balais, faucilles et pelles ont désherbé la concession des établissements et nettoyé également les salles des classes. Ils se sont répartis en trois groupes pour assainir le samedi dernier le lycée Dialu de Bria, les écoles Ijama et Piango. Objectif, rendre propre tous les établissements de Bria afin de garantir la santé des élèves. Élise Ndomende, chef d'équipe de nettoyage à l'école Ijama.
La concession est vraiment très sale. Il y a beaucoup de saleté. C'est pour cela que nous sommes venus. Nous nous sommes mobilisés pour venir arranger et nettoyer la cour de l'école pour que nos enfants viennent faire l'école dans la bonne condition. Si Dieu nous prête la vie, nous voulons nettoyer toute l'école qui est dans la Bria. La COVID-19 sont beaucoup dans la ville. Ce que j'ai demandé à toute la population de Bria de respecter la mesure barrière. Enseignons aussi à nos enfants, avant d'aller à l'école, il faut vraiment que les enfants portent les cache-nez et lavent leurs mains avant d'entrer dans la salle de classe pour leur santé.
C'est depuis le 20 juillet que les cours ont effectivement repris dans certains établissements scolaires à Bria. Cette reprise reste toutefois timide dans d'autres écoles pour des raisons qu'on ignore encore. Bria, Gasmala Mustapha, Radio Ndekeluka.
Covid-19 en Centrafrique. Hier, le ministère de la Santé a annoncé 6 nouveaux cas de contamination.
Le pays compte à ce jour 4607 patients, dont 1574 guéris et 59 décès. En Afrique, jusqu'à hier, près de 872 000 cas de contamination ont été enregistrés sur l'ensemble du continent, dont au moins 18 475 décès. Dans le monde, le bilan a dépassé les 17 millions de contaminations et plus de 667 000 morts.
Et puis l'Observatoire indépendant de la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement déplore la lenteur dans la mise en œuvre de leurs recommandations.
Préoccupation exprimée mardi à Bangui lors d'un un échange sur les recommandations de cette organisation. Les membres de cette plateforme ont adressé une note aux autorités centrafricaines pour la mise en œuvre dans un bref délai de leurs recommandations. Seule possibilité pour la gestion durable des ressources naturelles en Centrafrique. Jean-Jacques Urbain Matamali, coordonnateur du Centre d'information environnementale et de développement au micro de Igor Diaskin-Senapay.
Il faut noter que ce sont des rapports qui sont en lien avec la législation forestière. Ce sont des faits qui sont avérés illégaux, dont on a rapporté dans les rapports. Et que l'administration qui est là pour mettre en application ces textes-là doit maintenant faire bon usage de ces recommandations. Au cours de cet atelier de 2 jours, nous avons constaté qu'il y a 51 recommandations qui sont soulevées dans ces rapport, mais dont, pour lesquels les mesures ne sont pas prises pour mettre fin à l'exploitation illégale. C'est ce que nous avons observé et que nous avons décidé de faire une note de position pour envoyer au gouvernement pour reconnaître, pour soulever cette situation. Et nous soulevons des cas avérés d'exploitation illégale. Il appartient à l'administration d'infliger des amendes, de poursuivre les délinquants afin que le droit soit appliqué.
À l'international présidentiel en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara réserve sa réponse malgré les sollicitations du RHDP.
Hier, devant les 4 000 militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, qui le pressait d'être candidat à un troisième mandat, le chef de l'État ivoirien a déclaré qu'il s'exprimerait prochainement sur une éventuelle candidature.
Au Mali, l'opposition réclame aussi la démission du Premier ministre et annonce son agenda.
Pouvoir et opposition haussent le ton. L'imam Mohamed Diko a demandé la démission du Premier ministre malien Boubou Cissé, qui est soutenu par les partisans d'Ibeka, n'entend pas rendre le tablier. L'opposition affirme douter de la volonté du pouvoir de dialoguer au moment où Bamako vient d'acquérir une importante quantité de matériel anti-émeute pour faire face à d'éventuelles manifestations liées à la nouvelle désobéissance civile annoncée. La page sport, c'est avec vous. Bienvenue Bello, bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Voilà, ouvrons cette page, ouvrons d'abord avec ce cri de cœur des entraîneurs nationaux de tennis.
Il déplore la situation du tennis actuellement à Bangui et sur toute l'étendue du territoire. Seuls quelques terrains privés continuent de fonctionner aujourd'hui. Aucune compétition, il n'y a plus de centre d'apprentissage public du tennis dans les différents quartiers de Bangui. Guillaume Balézou, entraîneur national de l'équipe B, appelle les responsables des sports à se préoccuper de cette situation alarmante.
À l'époque du défunt Kamash, le tennis marchait bien. Mais maintenant, les gens n'ont plus le goût du tennis car ils disent que c'est cher. Pour jouer au tennis de nos jours, il faut aller à Bangui Rock Club et Tennis Club qui sont des centres privés. Il faut payer au moins 70 000 francs CFA par mois pour pratiquer le tennis. C'est ce qui décourage les Centrafricains pour venir au tennis. Mais à l'époque, le tennis était vulgarisé dans plusieurs quartiers et des jeunes venaient apprendre et certains étaient devenus des champions. Nous, les entraîneurs, nous avons la volonté de mieux faire. Comme nous l'avons appris, malheureusement, il n'existe pas d'encouragement. Nous demandons au Senoska de venir nous aider et à notre président de se donner au tennis comme le faisait le défunt Kamash.
Guillaume Balézou était à votre micro. Bienvenue Bello.
Feu Joseph Hicham Kamash fut président de la Fédération Centrafricaine de Tennis. Ses bonnes œuvres pour le développement de cette discipline sportive sont toujours reconnues par ceux qui sont proches de cette fédération.
À quand la réouverture officielle des lieux de sport en Centrafrique?
Depuis la décision présidentielle du 19 mars interdisant les rassemblements dans les stades, à ce jour, aucune autre mesure n'a été prise dans ce sens. Cependant, les matchs, les sports de maintien, les regroupements de masse se font régulièrement dans la ville de Bangui et en province. Les amoureux du sport se posent la question de à quand la levée de cette décision pour permettre aux fédérations et ligues de programmer leurs activités et matchs officiels.
Et voilà, c'est la fin de ce journal en français sur Radio Ndeke Luka. Restez branchés pour la version en langue nationale.